Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. D'abord les titres, pas de campagne de vaccination contre le monkeypox ce mercredi 2 octobre dans le Sud Kivu. L'opération est plutôt reportée pour le lundi 7 octobre prochain. Raison du report, les responsables de la division provinciale de la santé expliquent un problème de conservation de vaccins. Docteur Claude Baïziré de cette division est d'ailleurs notre invité. Une première à Goma, les chefs d'état-major des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe étaient autour d'une table pour la première fois depuis le déploiement des premiers contingents de la SADC dans l'est de la RDC. Au menu, l'évaluation des avancées ainsi que des défis auxquels font face ces opérations sur le terrain. Report de la campagne de vaccination contre le monkeypox ce mercredi 2 octobre dans le Sud Kivu. Cette opération qui devait débuter aujourd'hui devra commencer le lundi 7 octobre prochain. Motif, la division provinciale de la santé précise que ces vaccins sont exigeants quant à leur conservation. Je vous signale que les cibles sont notamment les enfants, les jeunes, les professionnels de la santé et les professionnels du sexe. C'est ce qu'affirme Dr Claude Baïziré au micro de Rachel Kiesembang. On l'écoute.
Ce sont des vaccins un peu exigeants par rapport à la conservation parce que si on veut le garder pendant longtemps, il faut le garder au moins à moins 80 degrés. Il n'y a pas de chambre froide ou de frigo de moins 80, mais au moins pour le garder pendant un temps juste avant l'utilisation, on peut le garder dans des chambres froides à moins 20 degrés. Ça, nous en avons ici à Bukavu. Donc, le vaccin, suite à ces conditions, on les a gardés d'abord à Goma parce qu'il y a la chambre froide de moins 80 à Goma. Mais on est en train de se mener. Comme la campagne vient d'être reportée un peu à lundi, le 7, déjà dans les deux jours ici, le vaccin sera à Bukavu. Et à partir de Bukavu, nous allons le déployer directement dans les trois zones de santé.
Notez que Dr Claude Baïziré est l'invité de ce journal. On le suivra à la fin de cette édition. L'actualité, c'est aussi les chefs d'état-major des pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe qui se sont réunis pour la première fois lundi à Goma depuis le déploiement des premiers contingents de la communauté économique des États de l'Afrique australe, SADC, dans l'est de la RDC. L'objectif était d'évaluer les avancées ainsi que les défis auxquels font face ces opérations sur le terrain des combats et envisager de nouvelles stratégies. C'est comme l'explique ici le général-major Ibrahim Mike Mouhoma dans ses propos recueillis par nos confrères de la cellule de communication du gouvernorat de province.
Nous sommes venus faire l'évaluation pour voir ce qui est fait par nos contingents. Comme vous le savez, après l'agression de la RDC, la SADC a décidé de créer et d'envoyer une force en provenance de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie pour appuyer les FRDC dans les opérations contre les groupes armés et surtout contre les M23. Maintenant, après avoir réussi un mandat d'une année, nous avons mené des opérations. Alors, le mandat d'une année touche à sa fin. C'est pourquoi nos autorités ont demandé qu'on fasse l'évaluation pour voir les avancées, mais aussi les défis dans les opérations, peut-être en termes d'équipement et matériel ou des militaires pour qu'on fasse davantage.
Le nouvel ambassadeur de France au Nord Kivu, Rémi Maréchaux, est sur place depuis lundi. À son arrivée, le diplomate français a rencontré les autorités provinciales avec qui il a échangé sur la situation sécuritaire et humanitaire en général. Il compte aussi rencontrer les députés provinciaux et les membres de la société civile. Rémi Maréchaux dit venir pour comprendre la problématique régionale et voir comment la France pouvait contribuer aux efforts de paix dans l'est du pays. On écoute le diplomate français dans ses propos choisis par Denise Lukeso.
Moins d'un mois après mon arrivée, mon premier déplacement, je suis ici à Goma pour comprendre la situation et comprendre comment mon pays peut contribuer aux efforts de paix dans cette région du pays. Donc comme vous le savez, ça fait des années que la France à New York et ailleurs est l'avocate du respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté congolaise à travers toutes les décisions, toutes les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'était très important pour moi de venir me rendre compte, parce que on peut lire beaucoup de documents, on peut avoir des témoignages, mais c'est très important ici de rencontrer le gouvernorat, de rencontrer les autorités élues, de rencontrer la société civile pour mieux comprendre la problématique régionale et surtout mieux comprendre comment nous pouvons assister les efforts de paix. Je sais que mes autorités et la France travaillent aux côtés des autorités angolaises dans le cadre du processus de Luanda, mais nous sommes bien conscients que les populations déplacées traversent de grandes souffrances et que ces souffrances doivent cesser le plus tôt possible.
La visite du diplomate français au Nord Kivu prévoit aussi l'inauguration d'un point d'adduction d'eau dans un site de déplacés. Et puis bonne moisson pour la police dans la province du Haut-Uele. Elle a arrêté une trentaine de présumés criminels. Ceux-ci ont été interpellés dans les territoires de Wamba, Ouadza, ainsi que dans la ville d'Isiro. Ces présumés criminels ont été présentés hier au gouverneur de province par le commandant de la police nationale congolaise. Le numéro 1 de la province, Jean Bakomito Gambou, exhorte la police à poursuivre la traque des inciviques et de les déférer devant la justice. Le point avec Jacques Mokonkole.
Au total, 34 présumés criminels, dont une femme, ont été présentés publiquement hier au gouverneur de la province du Haut-Uele. Certains ont été arrêtés dans la concession minière de Durba, notamment à Jiro et Dubélé, dans le territoire de Ouadza. D'autres encore à Matete et Bolélé, en territoire de Wamba. Tous sont poursuivis pour des faits infractionnels. Certains pour viol, assassinat et détention illégale d'armes de guerre. D'autres pour vol de téléphones, matelas et écrans de télévision. S'adressant au commandant de la police, le gouverneur de province l'a exhorté à traquer les inciviques jusqu'à leur dernier retranchement et les déférer devant la justice. À la population civile, Jean Bakomito Gambou l'invite à une parfaite collaboration avec les services de sécurité en dénonçant tous les suspects afin que la population vague paisiblement à ses occupations. Enfin, aux hommes de la loi, le chef de l'exécutif provincial les appelle à travailler consciencieusement et en toute indépendance et que les coupables soient condamnés conformément aux lois du pays. Jacques Mokonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Le calme est enfin revenu dans la soirée d'hier mardi soir. Du côté de Kalemi, les motocyclistes manifestaient, dénonçaient en fait la mort de deux des leurs tués par des coupeurs de route sur l'axe Kalemi-Bendera vers Massissi dans le sud Kivu. Au cours de cette manifestation, un lieutenant des FARDC a été tué par balle à la place Kisebwe. Et face à cette situation de terreur, le mouvement citoyen Parlement Debout, sans tabou, dresse un tableau sombre de cette insécurité dans la ville de Kalemi et ses environs ces deux derniers jours. Paul Munanga nous en dit plus.
Tout commence dans l'après-midi de ce mardi. Plusieurs motocyclistes manifestent leur colère. Ils ramènent à Kalemi les corps des deux motocyclistes tués par des bandits sur l'axe Kalemi-Bendera. Ils barricadent l'avenue Lumumba. La police intervient pour disperser les manifestants. Dans cette confusion, un lieutenant des FARDC est atteint par une balle perdue au niveau de la place Kisebwe. La victime est un médecin de l'hôpital militaire situé au camp marin. Le président du mouvement citoyen Parlement Debout sans tabou déplore la recrudescence de l'insécurité à Kalemi et ses environs. Nathan Mugisho.
Tous ces cas-là, trois morts avec une maison cambriolée où un monsieur a été grièvement tabassé par les bandits munis d'armes blanches. Ils lui ont arraché l'argent. Si vous allez sur l'axe Nyunzu, les 30 septembre, il y a eu des motards qui sont tombés dans l'embuscade de coupeurs de route qui les ont tout arraché. Et demandons au gouvernement de multiplier les stratégies afin de nous sécuriser. Sinon, nous allons manifester notre ras-le-bol parce que l'insécurité n'est pas le pain que nous devons consommer chaque jour comme c'est le cas aujourd'hui.
Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
La situation sécuritaire également au menu des échanges entre le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale avec différentes couches de la population de l'Ituri. L'humanitaire était aussi évoqué dans cette province confrontée aux violences des groupes armés. La société civile, elle, souhaite voir à l'issue de ces consultations des mécanismes concrets pour restaurer l'autorité de l'État. Reportage Ezekiel Mouzalia.
La persistance de l'insécurité causée par la rivalité entre groupes armés et les attaques de ces derniers contre les civils, principalement dans le territoire de Djougou, était au centre des échanges mardi entre les ministres de la Défense et les acteurs de la société civile. Dieudonné Lossa a peint le tableau sombre de la situation sécuritaire en province.
Les gens qui se trouvent dans les sites, ils ont fui la mort. Vous savez déjà, dans le territoire de Djougou, il y a même des paroisses qui ont été fermées. C'est parce qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État dans ce coin.
De son côté, le président de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, UNADI, propose au ministre de la Défense d'accélérer le programme des DDRCS. Michel Metawani justifie sa proposition.
Il y a eu beaucoup de dialogues communautaires qui ont été organisés, à travers lesquels les communautés participent dans la sensibilisation. Il y a une voie de sortie qui est le PDDRCS, que tous les groupes armés adhèrent au programme de désarmement qui est le PDDRCS. Ce qui manque, c'est l'évaluation de tous ces dialogues. Nous avons demandé au VPM qu'on évalue tous ces engagements que les groupes armés ont signés.
Guy Kabombo Mwadiamvita poursuit sa visite ce mercredi à Tchomia, au bord du lac Albert, toujours pour échanger avec la population. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Inclusion du cobalt congolais dans la liste des biens produits par le travail des enfants par les États-Unis, le gouvernement congolais s'y oppose farouchement. Il conteste ce point de vue des Américains dans un communiqué de presse publié ce mercredi par le porte-parole du gouvernement. Kinshasa estime que cette décision de Washington ne tient pas compte des efforts ni des avancées majeures enregistrées dans la régulation de l'exploitation minière, artisanale et industrielle par l'État. Toutefois, le gouvernement congolais dit rester ouvert à toute initiative constructive visant à améliorer les conditions de travail et à renforcer la protection des droits humains dans son secteur minier afin de contribuer à un développement inclusif et durable du pays. Des détails avec Grace Hamzati.
Pour le gouvernement, cette mesure du département du travail des États-Unis ignore délibérément les réalités locales et porte atteinte à la réputation internationale du secteur minier congolais. Au sujet du travail des enfants ou du travail forcé dans l'exploitation minière artisanale informelle, le gouvernement affirme que l'entreprise générale du cobalt, créée en 2019, s'emploie à viabiliser l'exploitation artisanale au travers des mesures rigoureusement éthiques, responsables et transparentes dans l'exploitation du cobalt conformément aux lois congolaises et aux normes internationales en la matière. Quant à l'exploitation industrielle, Kinshasa rappelle que les entreprises minières locales et internationales qui opèrent en RDC les font dans le respect des lois nationales, des accords et principes internationaux, ainsi que des cadres de gouvernance et de transparence rigoureux. Tout en reconnaissant la nécessité de maintenir une vigilance accrue sur ces questions, le gouvernement congolais encourage les autorités américaines à adopter une approche équilibrée qui ne compromet pas l'accès des entreprises congolaises et internationales opérant en RDC aux marchés internationaux, mais qui soutient les efforts de régularisation en cours. Car, en tant que producteur majeur de cobalt au niveau international, soit environ 73% de la production mondiale, la RDC est appelée à jouer pleinement son rôle de pays solution pour une économie verte et circulaire, déclare le communiqué.
L'administrateur du territoire de Ngungu suspendu de ses fonctions, une décision du gouverneur intérimaire de la province du Kwilu, Félicien Kiwai Mwadi, dans sa correspondance, Hervé Mputu est reproché de détournement des biens publics, de l'incompétence et de bien d'autres griefs. En réaction, la société civile locale salue cette décision de l'autorité provinciale qu'il qualifie de responsable afin de remettre de l'ordre dans cette entité territoriale. D'autres détails avec Irène Mboma Luzolo.
Les détournements des biens publics et des frais de fonctionnement, la spoliation, l'incompétence avérée et le manque de collaboration avec ses deux adjoints, tels sont les griefs mis à charge de l'administrateur du territoire de Ngungu, Hervé Mputu, peut-on lire dans la correspondance de l'autorité provinciale du Kwilu qu'il a suspendu jusqu'à nouvel ordre. Cette décision du gouverneur Félicien Kiwai est saluée par le président de la société civile de Ngungu, Joachim Kusamba, qui déclare ce qui suit.
La société civile de Bungo salue la décision du gouverneur de province. C'est une décision d'un responsable. Cette décision de suspendre l'administrateur du territoire de Bungo. Qu'est-ce qui se passe? L'administrateur du territoire, il est auteur de détournement des biens publics de l'État et aussi de l'incompétence. Et puis aussi le détournement des biens publics de l'État. On est en train de le reprocher la perte des ordinateurs et puis la perte de moteur de soie tenue et beaucoup d'autres choses. Ce sont ces éléments-là qui ont fait que le gouverneur de province prend la décision.
Dans l'entretemps, c'est l'administrateur du territoire adjoint chargé de la politique et de l'administration qui est chargé d'assumer l'intérim à la tête de cette entité. Nos efforts pour avoir la réaction de l'administrateur suspendu sont restés vains. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La situation des droits humains au Burkina Faso est très inquiétante, affirme Drissa Traoré, secrétaire général de la Fédération internationale pour les droits humains. 2 ans après le coup d'État d'Ibrahim Traoré, l'organisation dresse un sombre tableau des libertés bafouées dans le pays. La FIDH dénonce notamment des arrestations arbitraires d'opposants, l'enrôlement forcé de civils, la disparition de défenseurs des libertés et la fin de la liberté de la presse.
L'invité.
Pas de campagne de vaccination contre le monkeypox ce mercredi 2 octobre dans le sud Kivu. L'opération est plutôt reportée pour le lundi 7 octobre prochain. Raison du report, les responsables de la division provinciale de la santé qui expliquent un phénomène de conservation de vaccins. Docteur Claude Baïziré est notre invité du jour. Suivez ce qu'elle nous dit.
Docteur Claude Baïziré, bonjour.
Oui, bonjour.
Quel est l'état des lieux du mpox à ce jour dans notre province du Sud Kivu?
À ce jour, la province a dépassé le cap de 8000 cas de mpox dans la province du Sud Kivu. Et comme vous le savez, c'est toute la province qui est déjà embrasée par cette maladie. Nous avons 34 zones de santé, mais déjà 32 zones ont déjà notifié au moins un cas. Mais dans ce 32, nous avons à peu près 7-8 zones de santé qui prennent vraiment le devant, et en commençant par la zone de santé de Mitimuresa, à elle seule, avec 2254 cas. Dans tout cela, malheureusement, nous avons déjà perdu au moins 43 malades, et ce qui est énorme, mais il y a quand même des guéris. Et ce qui est aussi, je dirais, une bonne nouvelle, nous avons déjà eu quand même assez de guéris. Nous sommes au-delà de 7000 guéris parce qu'au moment où nous parlons, nous avons une affaire de 600 malades actifs. Donc il y a des malades, mais il y a quand même des guéris.
Qu'est-ce qui fait que la zone de santé de Mitimuresa continue à battre le record avec 2254 cas à ce jour? Qu'est-ce qui favorise cette propagation dans cette zone?
C'est vrai, nous avons été aussi obligés à faire une petite analyse comparativement aux autres zones. Vous vous rappellerez que Kamituga avait commencé, mais quand on voyait l'évolution de Kamituga, ça s'est stabilisé. Tandis que Miti, vraiment, c'est ça qui nous dérange pour l'homme. Et entre-temps, les mécanismes ont été mis en place. Alors, quand on a fait des analyses, nous avons constaté que, brusquement, Mitimuresa, dans le centre de traitement de Kavumu, il y avait tellement de malades, et de sorte que la capacité d'accueil était devenue petite. Alors les gardes malades, les enfants, parfois les parents venaient avec des enfants, des petits-enfants. Si une mère a un petit enfant, par exemple, de 2 semaines, et il y a un fils ou une fille de 5 ans qui est malade, la mère ne peut pas laisser cet enfant. En amenant cet enfant, on arrive à constater que l'enfant aussi faisait aussi la maladie. Parfois, la mère ou le garde malade faisait aussi la maladie. Ce qui fait que cette promiscuité a aussi favorisé ces gens de contamination, malgré tout ce que nous étions en train de donner comme conseil.
Et par rapport à la campagne de vaccination qui devait débuter ce 2 octobre, les vaccins sont déjà dans la province?
Ce sont des vaccins un peu exigeants par rapport à la conservation parce que si on veut le garder pendant longtemps, il faut le garder au moins à moins 80 degrés. Il n'y a pas de chambre froide ou de frigo de moins 80, mais au moins pour le garder pendant un temps juste avant l'utilisation, on peut le garder dans des chambres froides à moins 20 degrés. Ça, nous en avons ici à Bukavu. Donc le vaccin, suite à ces conditions, on les a gardés d'abord à Goma parce qu'il y a la chambre froide de Devon 80 à Goma. Mais on est en train de se mener, comme la campagne vient d'être reportée un peu à lundi, le 7, déjà dans les deux jours ici, le vaccin sera à Bukavu. Et à partir de Bukavu, nous allons déployer directement dans les trois zones de santé.
Quid de la vaccination? Qui sont éligibles à ce vaccin?
Ça aussi, c'est un élément important. Même si les trois zones ou les quatre zones vont finir par vacciner, on ne va pas vacciner toute la population, alors que c'était l'idéal. Comme il y a peu de vaccins, nous avons ciblé d'abord le vulnérable, des gens qui sont susceptibles de faire la maladie ou bien de faire la maladie et entraîner des complications. C'est ainsi que, avant, l'idéal était de vacciner d'abord les enfants, mais le type de vaccin pour les enfants va venir juste après. Donc, nous comptons vacciner les jeunes à partir de 18 ans et au-delà, même les adultes. Mais là aussi, il faut bien spécifier. Il y a d'abord les professionnels de santé qui sont souvent sujets aussi à des infections de Mpox. Nous avons aussi des contacts. C'est-à-dire toute personne qui a été en contact avec un malade Mpox. Parmi les malades, il y a un grand nombre de professionnels de sexe. Donc, le gouvernement a proposé que la priorité soit donnée aussi à cette catégorie de professionnels de sexe. Donc, il y a toutes ces personnes vont être aussi vaccinées.
Docteur Claude Bahiziré, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Docteur Claude Bahiziré s'entretenait avec Rachel Kiesembangou. Vous avez certainement reconnu sa belle voix. Et c'est la fin de ce journal. Merci à Martin Sebujangou, à Élisée Tchikota et à Jean-Noël Mokondo.